Chères auditrices, les lessiveuses sont de retour aujourd'hui, puisqu'il y a encore du linge à laver, et que, contrairement à ce que le vieil Honoré de Balzac nous a écrit, non, le linge sale, ça ne se lave pas qu'en famille. On se réunit donc avec Sam, Mathilde, Manon et Julie, et pour nous encourager, on a aussi Anouk et Lucie. On va se lire des textes qui parlent pour certains d'amour, de ces amours qui, vus de loin, doivent ressembler à une drôle de valse, une suite de pas qui se croisent et se décroisent. On vous emmène au bord des routes, là où les destins s'en mêlent un peu les pinceaux et peignent de drôles de tableaux. On parlera aussi de deux artistes, une poétesse islandaise, une chanteuse de folk et blues américaine. L'une s'appelle Ólafsdóttir, l'autre Karen Dalton. Deux artistes oubliés, mises de côté par les industries du livre et de la musique.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes écrivaines préférées. Et donc, comme Mathilde l'a dit, elle s'appelle Odur Ava Ólafsdóttir. Et je suis presque sûre de l'avoir mal dit, mais c'est pas grave. C'est une écrivaine islandaise, donc. Et en France, elle est surtout connue pour son roman Rosa Candida. Mais elle en a écrit plein d'autres tout aussi beaux. Ses livres sont traduits et publiés aux éditions Zulma. Et moi, je vais vous parler un peu plus de mon roman préféré, qui s'appelle Miss Island, et qui a été publié en France en 2019. L'histoire se passe en Islande dans les années 60. L'héroïne s'appelle Ekla. C'est une jeune femme qui se lève la nuit pour écrire. Une femme qui passe ses journées à servir des hommes dans un café. Une femme qui reçoit chaque jour des commentaires sur son physique. Et toujours le même conseil venant toujours des mêmes hommes. Si elle participait à un concours de beauté, elle pourrait devenir Miss Island. Bon, le personnage féminin essaye de s'en sortir dans une société patriarcale. Ça nous parle, on connaît bien. Mais dans les années 60, c'était pire. L'Islande était encore très isolée du reste du monde. L'islandais était une langue très minoritaire et la parole des femmes n'était pas entendue et donc très difficilement publiée, ensevelie sous des pseudonymes masculins. Pour les artistes, la femme était une muse et un soutien, et accessoirement la mère de leurs enfants. Et on s'en foutait pas mal de savoir qu'elle aussi, elle pouvait être... J'ai du mal à le dire tellement c'est... On a du mal à l'admettre. On s'en foutait pas mal de savoir qu'elle aussi, elle pouvait être talentueuse. Ekla écrit dans un pays où la littérature est masculine, où le mot poète est masculin et rien d'autre. Et il y a un passage du roman qui résume très bien cette idée. « Les hommes naissent poètes. Ils ont à peine fait leur communion qu'ils endossent le rôle qui leur est inéluctablement assigné, être des génies. Peu importe qu'ils écrivent ou non. Tandis que les femmes se contentent de devenir pubères et d'avoir des enfants, ce qui les empêche d'écrire. » Et c'est une fin de citation. Ekla naît dans une ferme au milieu d'un champ de lave. Elle porte le nom d'un volcan. Dans l'émission « Par les temps qui courent » que vous pouvez retrouver sur France Culture, Ólafsdóttir dit qu'elle a voulu donner à son personnage la même force souterraine, la même puissance créatrice que les volcans islandais. Et je vais vous lire un extrait du premier chapitre, dans lequel la mère d'Ekla s'adresse à sa fille. Quand je l'ai épousée, j'ignorais que ton père était obsédé par les volcans, qu'il passait son temps plongé dans des récits d'éruptions, correspondait avec trois géologues, faisait des rêves prémonitoires, des déchaînements de la terre, et n'attendait qu'une chose, voir un panache de fumée monter dans le ciel et sentir le sol trembler sous ses pieds. « Tu voudrais peut-être que la terre s'ouvre au bout de notre champ ?» demandai-je, « comme une femme qui accouche ?» Je détestais la lave, un champ de lave vieux de 1000 ans, cerné de toutes parts les terres de notre ferme. Il fallait le franchir pour aller cueillir des baies sur la lande, et on ne pouvait pas donner un coup de bêche dans le carré de pommes de terre sans buter sur un rocher. 4 ans et demi après ta naissance, l'éclat entra en éruption au terme de 102 ans de sommeil. Ton père eut enfin l'occasion d'entendre dans la province des Dalires les grondements titanesques dont il rêvait, comme un écho de la guerre mondiale qui venait de s'achever. Il appela immédiatement sa sœur dans les îles Vestmann pour lui demander ce qu'elle voyait depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle était en train de faire revenir des beignets. Elle lui répondit que le nuage stagnait au-dessus de l'archipel, que le soleil était rouge et qu'il pleuvait des cendres. La main sur le combiné, ton père me répétait ses propos mot pour mot. Elle dit que le soleil est rouge et qu'il pleut des cendres, qu'il fait presque aussi noir qu'en pleine nuit et qu'elle a dû allumer la lumière. Il lui demanda si le spectacle était aussi grandiose que terrifiant et si le sol de la maison tremblait. Elle dit que le spectacle est aussi grandiose que terrifiant, que toutes les gouttières sont pleines de cendres et que son mécanicien de mari est monté sur l'échelle pour les nettoyer. Il passait son temps l'oreille collée au poste de radio et me résumait les informations essentielles. La bouche d'éruption, le cratère si tu préfères, est en forme de cœur, un cœur de feu. Ou bien, tu te rends compte, le volcan a craché une bombe de lave en forme de cigare de 11 mètres de long sur 5 de large. Bientôt, il ne se contenta plus de ce que sa sœur voyait par la fenêtre de sa cuisine, ni des photos figées en noir et blanc de la colonne de fumée à la une du journal. Il voulait voir l'éruption de ses yeux. Il voulait voir les couleurs, voir ces blocs de lave incandescents, ces roches gigantesques éjectées dans les airs. Il voulait voir ce mur de lave noire et ardente avancer en rampant comme une métropole illuminée. Il voulait voir si les flammes du volcan coloraient le ciel en rose, sentir la chaleur sur ses paupières, ses yeux le picoter. Il voulait foncer dans sa jeep russe jusqu'à la vallée. Et il voulait t'emmener avec lui. Al Grimson, notre grand poète, qui mieux que personne a décrit les éruptions dans ses vers, n'en a jamais vu aucune, dit-il. Tout comme le naturaliste Egert Olafsson. Mais Hekla ne peut pas manquer l'éruption du volcan dont elle porte le nom. Il te cala sur un coussin à l'avant de la jeep pour que tu puisses profiter du paysage. Moi, je devais rester ici, avec ton frère, sans discuter. À son retour, en voyant que les semelles de ses bottes avaient fondu, j'ai compris qu'il s'était trop approché. Laisse-moi te dire que ça bouillonne encore sacrément dans les bonnes vieilles artères de l'éclat, annonça-t-il en te portant, endormi, dans ton lit. L'été suivant, les cendres recouvrirent la province des Dalires et dévastèrent les champs. On retrouva des bêtes mortes dans des creux où stagnaient les gaz toxiques, des renards, des oiseaux et des moutons. Ton père arrêta enfin de parler des éruptions et se remit au travail. Toi, tu étais transformé. Tu avais fait un voyage. Tu t'exprimais différemment. Tu parlais la langue des éruptions. Tu employais des mots comme sublime, prodigieux et titanesque. Tu avais découvert le monde, tu regardais le ciel. Tu as pris l'habitude de disparaître. Nous te retrouvions allongé dans les champs, à observer les nuages, ou en hiver, sur une congère, à contempler les étoiles. Donc c'était un extrait de Miss Island, un roman écrit par Odur Ava Olafsdottir et publié aux éditions Zulma. J'avais choisi de vous parler de ce livre parce que l'écrivaine se pose une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qu'elles auraient pu devenir, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et toutes les femmes avant elles? Qu'est-ce qu'elles auraient pu accomplir si on leur avait donné le droit, la chance et le temps de faire ce qu'elles avaient envie de faire avant de faire des enfants? Et moi aussi, je me demande souvent ce que pourraient bien raconter les milliers de lignes que je ne lirai jamais, les livres et les carnets qui auraient pu reposer sur ma table de chevet si un jour on avait dit aux femmes de ma famille « tu peux écrire ». Moi j'ai tout, j'ai le droit, le temps et la chance d'écrire. J'ai le droit, le temps et la chance de choisir. Alors j'écris. Cool.
Yeah, you color me clear. Now what are you waiting for? From white to gray, I'm a bird and the broken one. The drops illuminate and evaporate into a neon lake. I'm a beast and the vicious one.
Cette semaine, j'avais envie de vous partager un peu de douceur et de naïveté. J'ai donc choisi un bout de nouvelle que j'ai écrite il y a quelque temps. Tout simplement, un texte qui raconte un bord de route. Un lieu en marge de l'espace et du temps. Une histoire banale, celle des lignes de vie qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin sur la paume. Celle des destins qui s'entrecroisent, des itinéraires qu'on se garde sur la peau. Une histoire banale, celle de la conjoncture des vents, qui se rejoignent au bon endroit, au bon moment, et nous poussent un peu plus loin, juste quelques pas. Ce texte s'appelle « Les cul-de-sac ont sûrement leur raison ». À la sortie du village, en bord de route. Indiquer le nom du village n'aurait aucun intérêt. Il n'est d'intérêt que de vous dire qu'il finit par une route. Route qui n'a d'ailleurs d'intérêt qu'à ce moment précis de l'histoire. À la sortie du village, donc, au bord de la route en question, une jeune femme lève le pouce vers le haut. On prendrait ce geste pour un réflexe. Elle semble avoir levé le pouce à chaque fois qu'une route est passée sous ses pas. Il n'empêche, malgré tout le naturel de son geste, on se demande vraiment comment elle a atterri là. Car cette route est une pauvre route en fin de course, une pauvre route en fin de village, qui prend un virage et puis, on ne sait pas. Une pauvre route qui ne semble pas aller vers quelque chose. Ainsi, la jeune femme lève le pouce vers le haut. Des voitures passent, parfois, rarement, devant elle. Elle ne lui laisse comme trace qu'une vague poussière qui se soulève tout autour, puis se dépose sur ses épaules, comme pour y signer un refus. Elle l'essuie sans cligner des yeux, de la main gauche, pour ne pas baisser le pouce droit. Elle ne semble pas s'incommoder de la poussière. Elle doit en avoir l'habitude. Peut-être voyage-t-elle depuis des années comme ça. Parfois, on n'a vraiment plus l'envie de décider pour soi de la direction à prendre. Parfois, on a trop pris de routes qui ne menaient nulle part. On a marché longtemps, et tous ces pas derrière nous n'ont pas mené à une destination. Alors on s'installe au bord des routes et on suit, pour un temps, la trajectoire des autres, de ceux qui savent où ils vont. Il serait bien impossible de trouver une raison à l'existence de cette route qui ne mène nulle part, ni à la présence de cette femme dans le village, ni à son départ précipité. Il serait encore plus difficile de trouver une raison à l'existence de ce village et de ses habitants, qui ne semblent d'ailleurs pas vraiment exister. Mais pour cette femme, comme pour tout le reste, que faire d'autre que continuer ? Derrière elle, un panneau de signalisation pointe une colline vers le haut d'un chemin en gravier. Quelqu'un a écrit quelque chose sur le panneau, et ça doit être le nom du lieu dit là-haut. Sous l'indication, une écriture d'enfant a rajouté « Be aware of cats, dogs and fig trees. Do not sleep under the fig trees. » La colline, derrière son dos, là plus haut, c'est essentiellement de l'herbe sèche qui suce la roche en surface. Tout au-dessus, quelques cyprès semblent monter la garde dans une étrange immobilité. Ils ont l'air, eux aussi, d'enquêter sur la présence de la jeune femme en bord de route, voire de s'en inquiéter. Ils ne doivent pas être habitués. Elle aurait pu suivre le panneau, prendre ce chemin en terre, aller voir la vue là-haut, mais elle ne l'a pas fait. Ainsi, la jeune femme reste là, le pouce en l'air, au bord de la route en question. À intervalles irréguliers, sur sa rétine, se dessinent de gauche à droite de vieilles voitures poussiéreuses. 1. Dacia bleu marine. 2. 3. 4. 5. Disparu derrière le virage. Elle compte, parce qu'il faut bien occuper l'espace de la route vide avec des pensées. Des chiffres, pourquoi pas. 1. Une autre voiture. 2. Encore une Dacia. 3. Rouge cette fois. 4. La poussière, toujours. 5. Disparu, encore. Le virage en a dévoré combien, des vieilles voitures comme celle-ci. Le pouce est toujours levé, mais la jeune femme a disparu dans ses pensées. Elle doit penser aux vaches hypnotisées par le passage des trains et se dire combien elle les comprend. Elle doit se dire, aussi, qu'on n'en voit pas beaucoup dans le coin des vaches. 1. Voiture verte. Une Dacia, encore. 2. La poussière, encore. 3. Elle s'arrête. 4. Elle s'arrête. 5. Elle s'est arrêtée. Alors ?
Bonjour.
Alors quoi ? Tu montes ou pas ?
Je sais pas encore. Je pensais plus à ça. Je pensais aux vaches. Toi, tu vas où ?
Je sais pas encore. Je vais pour faire demi-tour.
Demi-tour ? Ben, pourquoi pas ? Allons-y.
C'est vrai, parfois, on n'a plus l'envie de décider pour soi de la direction à prendre. Alors on s'installe au bord des routes et on suit, pour un temps, la trajectoire des autres, de ceux qui savent où ils vont. Encore faut-il qu'ils le sachent. Parfois, on tombe sur une personne qui n'a vraiment aucune idée d'où elle va, qui a simplement décidé de prendre le volant et d'aller toujours tout droit, jusqu'au prochain cul-de-sac. Alors on fait demi-tour et on recommence. Cette personne, qui n'avait vraiment aucune idée d'où elle va, c'était moi. On a d'abord parlé des vaches, qu'on n'en voyait pas beaucoup dans le coin. On a encore un peu roulé, puis la nuit est tombée, on a garé la voiture, on a dormi sous un figuier. Ça fait quelques années que nous nous sommes rencontrés sur cette vieille route qui ne mène nulle part. On a roulé longtemps comme ça, en suivant la règle de trois. Toujours tout droit, ne jamais regarder la carte, demi-tour dans les cul-de-sac. C'était une drôle de sensation d'être soudain perdu à deux. C'est qu'il nous semblait tout à coup que chacune allait retrouver quelque chose, comme une espèce de destination, ou peut-être, tout simplement, une raison.
Aujourd'hui, je vous parle d'amour, en vous lisant quelques textes courts, autour de la rencontre, de la brièveté, des nuits à se parler et à errer à demi-souffle, sur les draps des fées ou sur les pavés. J'ai grandi avec la musique comme beaucoup d'entre nous. Dans ma maison, il y avait toujours un disque ou une cassette qui tournait. Je me souviens d'avoir été bercée malgré moi par la chanson française et puis par la voix de Neil Young, de Véronique Sanson ou encore de Simon & Garfunkel. Les premières écoutes de celles qui vous déterminent. Je me souviens de Leonard Cohen et de la première fois où j'ai compris ses paroles, sans avoir besoin de revenir à la traduction. Parce que l'anglais avait percé quelque chose en moi, que j'essayais de comprendre depuis tant de temps. Le mystère des mots, le mystère du verbe et de l'incarnation, de ce qui veut être dit. Je me souviens, pourtant je peine à expliquer ce que je veux dire ici, aujourd'hui. J'ai besoin de la musique, je crois, pour tenter d'appuyer mon propos, parce que mes mots sont encore trop fébriles. Je peine à expliquer, comme l'a fait Leonard Cohen, l'amour, ce qui manque, ce qui reste, et l'avalanche qui s'abat comme un oiseau de proie, sans prévenir, au fond de nos ventres, pour ne laisser qu'un tas de cendres. Je me sens tellement répétée, tellement lasse à l'idée de réitérer chaque fois ce jeu mimétique qu'est la séduction et l'amour. J'aime les hommes parce qu'ils me font du bien, me permettent par moments de penser à autre chose, de me sentir plus légère, de rire peut-être plus intensément. Mais je ne sais pas si je peux tolérer d'être divertie tellement longtemps de mon travail et puis du monde que j'habite. Au fond, quand ça s'arrête, chaque fois, je respire, parce que je relâche la pression, la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit trop fort pour mon corps, la peur de ne pas réussir à maintenir l'amour et puis abdiquer. Alors, est-ce possible au fond de se rejoindre dans l'amour ? La philosophe Hannah Arendt dit que l'amour est une passion apolitique, et je crois qu'elle a raison. Parce qu'au fond, quand on est amoureux, on est incapable de penser à autre chose qu'à l'être aimé, à celui que l'on chérit, que l'on attend de retrouver. La seule tension, l'unique attente, est entre soi et l'autre, dans ce moment présent et le futur qui mène à ces retrouvailles. Quand vais-je le revoir ? Et vais-je le revoir ? Je suis emmêlée dans mes phrases et dans mes mots. C'est vrai, oui, souvent. Comme dans des fils rouges de laine. Mais parfois je m'en déprends, et j'arrive à repénétrer le réel. M'en départir pour observer les êtres de chair et de sang. Parfois, au fil d'une soirée, sur le dancing, sur une piste à peine éclairée, je croise des yeux, un visage étonnant, et je suis illuminée. On me dit chancelante. C'est que je ne me suis pas encore consumée. Ivre, au petit matin, nous arpentons des restes de danseurs pour gravir les quelques élans qu'il nous reste à franchir pour nous saisir. Je ne te cherche pas, pas plus que ça. Je suis perdue dans le trouble de mon trouble, mon ivresse m'en mêle, et me jette sur un écran blême et convulsif. Je traîne, plus loin je te vois. Avec ton sourire et tes yeux bruns, tu apparais fixé, devant un écran de buée. Je ne sais pas qui tu es, tu me prends la main, tu m'embrasses, et nous nous enfuyons. Tu m'expliques le mektoub. Tu me dis que chez toi, ça veut dire destin. Que le destin est sur le front, collé comme ça, derrière la peau. Tu m'embrasses la joue, la bouche, puis dans la salle obscure du cinéma, tu te penches un peu, et tu embrasses mon front. Je me sens tellement éprise, tellement fière d'être près de toi. Je tremble de tout mon corps, sous les couvertures. Je sais que tu vas partir et qu'après je serai seule, partout, à me souvenir de cet amour, de la brièveté, de cette idylle comme un mantra, et que dans la ville, ton nom continuera de courir comme un fou. Je pense que mon mektoub, celui que je porte sur le front, c'est d'aimer trop fort, ceux qui ne sont pas les bons. Je crois que le mektoub qui m'enserre le cœur, c'est la prédiction d'une vie seule à errer et à écrire. Et encore, ce n'est pas cela qui me fait souffrir, mais plutôt l'idée d'être quittée. Toujours, le corps tronqué de ses amours, de ses souvenirs, de ses odeurs. Impression d'avoir 1000 ans. Hier, nous sommes deux et nous errons sur un banc. En face, il y a la Garonne qui dérive. Tu me dis, elle est tellement haute, regarde, elle va déborder. Elle est prête à faire son coup d'éclat. Là, sur les berges, les ponts n'attendent que ça. Et dans tes poches, des bombes de peinture. Dès que tu bouges, ça fait un petit bruit métallique. et j'ai un hoquet dans le cœur, rien qu'à penser à l'eau qui lèche la pierre. Des chiens courent, ventre à terre. La bière dans les canettes fait un bruit creux. Je commence à sentir l'ivresse et le froid sur mes chevilles. L'écharpe de cachemire nouée le long de mon visage, mon menton disparaît emmitouflé. J'imite Anna Karina dans Pierrot le Fou, et cela te plaît ? Je te fais rire. Tu me dis que je dois être bonne actrice, ou quelque chose comme ça. Je te réponds que j'ai déjà fait ça, joué dans des films, et que si je te manque, un jour, quand on sera loin, toi et moi, tu n'auras qu'à les regarder, et tu me reverras, aussi vivante que maintenant. Tu souris. Je vois tes yeux se baisser. Je ne sais pas, à ce moment-là, à quoi tu penses. Je crois que je ne veux pas le deviner. Pourtant, parfois, j'ai des pressentiments très forts, de ceux qui percent la peau. Et je n'ai plus besoin des mots. Je sais d'avance ce qui va se passer et de quoi tu as besoin. Mais là, je te jure que je ne sais rien. Je me dis que peut-être alors, peut-être seulement, tu es aussi confus que moi dans cette nuit froide, aussi confus que l'eau qui se mélange et s'entortille au loin, noire et lumineuse de tous les réverbères dont elle porte les reflets. Peut-être que tu penses, que tu sais que l'on va se manquer, que l'on se manque déjà depuis le jour où l'on s'est rencontrés, et que c'est notre destin, notre mektoub, tragique et éreinté, de se voir, de s'aspirer le plus follement possible, pour ne pas regretter d'avoir tout eu, tout vécu, tout approché. Je ne sais pas, nous sommes sur ton lit, nus, et tu me dis, tu es tellement intense. C'est peut-être parce que je vibre et que je tremble pour pas grand-chose, de froid ou de jouissance. Je ne sais pas. J'aime ton corps, l'odeur de ta peau et la courbe de tes boucles. J'aime tes cheveux emmêlés et rêches qui ne changent pas de forme et ont cet éclat comme des spirales en tension pour la vie. Spirale Jetty. J'imagine ce que ce doit être, de quoi tu dois avoir l'air dans la mer, la couleur de ta peau au soleil d'été, incendiaire. Et la sieste avec toi en plein après-midi, le sel qui reste après, le sable qui scintille et vole sur tes cils. J'imagine, tandis que l'on parle, dans ce temps qui nous reste, la nuit comme seule jonction, dans ce temps où l'on s'imagine que l'on va aller en Italie, comme ça, pour rire, que tu viendras me chercher, à Toulouse avec ta voiture, et que l'on descendra lentement dans la botte, à dormir à la belle étoile ou dans le coffre, à se laver dans les torrents, manger chichement en buvant de la Peroni aux terrasses, en jouant aux cartes avec nos mains sales de voyageurs. Je pense. Je pense aussi qu'il ne faut pas trop me donner de matière à rêver, parce que très vite, je peux m'envoler, créer une histoire, que ce soit un projet pour toi et pour moi, ou une trame narrative où je nous placerai comme deux personnages étrangers à leur destinée. Parfois, je me dis qu'il ne sert à rien que tu me donnes tellement de matière, que je prends tout dans mes filets. Et puis très vite, sur le port, j'étale, comme sur un pavé humide et chaud, sur un pavé humide et chaud, les poissons multicolores et scintillants, en gardant ceux que je vais manger. Je relâche les autres dans la mer qui mousse, et les regarde s'éloigner vivement, avec la brûlure de l'air encore au creux des branchies. Je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de parler, d'écrire, sinon je ne pourrai pas dormir. Encore l'énergie qui me ronge. Je devrais sortir, arpenter la rue, comme un ver, luisant de toute l'eau de la pluie, de la sueur que tu as laissée sur ma peau, en guise de souvenir. Je traverse l'appartement, comme une flèche, je tire. Ce qu'il reste des rires. Je ne sais pas quoi dire, je voudrais t'écrire, c'est une ritournelle, celle des lettres. La nicotine commence à manquer et je vais bientôt m'éveiller, comme une créature pâle et gelée. Je ne sais pas quoi faire, mis à part ailer, mis à part errer. On dit que l'amour commence quand on attend, mais je te connais depuis quelques heures seulement. Une pincée de sel que l'on égrène dans l'eau, l'eau pour faire des pâtes, l'eau que l'on boit à même la carafe, après les sommeils, après les baisers, après le sommeil. L'eau de pluie qui assomme, qui assène à rester sous les couvertures, bleue, bleue sous les yeux, comme une étoile dans la poitrine, intense et longue, traînée depuis le tout début du jour, lorsque tu me tires par la main pour ne pas que je m'effondre. Par là, c'est par là. Lorsque nous regardons les murs et les comètes, que les graffeurs ont peints, lève les yeux. Une traînée rouge comme l'aube s'est effacée. Le reste et le cendrier est plein. Il n'y a plus rien. La cendre rougie me sourit. Je te demande pourquoi ce rire, pourquoi cette fossette là, cet air béat comme la lune. Tu dis heureux. Je suis heureux. Sans expliquer pourquoi. et cela me suffit. Parce que ta main se serre plus fort contre la mienne, lorsque tu dis ça, et je deviens ivre, le long de la rue, coule sur moi toute l'eau de la pluie. Je ne sais pas quoi dire, je devrais sortir, aller marcher un peu, user cette énergie qui stagne le long de mon flanc, qui me rappelle à toi. Tu mords. Je n'ai pas froid, je te regarde, érotique. Tu mords. Tu sens comme sentent les frimas, intenses comme les embruns, lorsque tu me serres contre toi. Je pourrais rester là, assise, des heures, juste à te regarder faire, toucher tes cheveux et sentir, comme tu viens, le long de mon présent, intense, influence, bercer les temps des heures.
Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then our love would surely last. You kept right on loving, I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eye, and I know from your smile, that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while, I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one bed and there's only one prayer. I listen all night for your step on the stair. But I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while. Oh, sometimes I see her undressing for me. She's a soft, naked lady love meant her to be. And she's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. And I know from her eyes, and I know from her smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine, will be fine. For a while.
Bonjour les amis, c'est Sam. J'espère que vous allez bien, ou si vous n'allez pas trop bien, j'espère que vous êtes assez doux et douce avec, vous, avec vous-même. Moi, je vais vous lire un petit texte aujourd'hui. C'est court, mais c'est lourd. Donc, je vais mettre un petit trigger warning. Ça va parler de violence sexuelle. Je vais évoquer le viol. Si vous ne voulez pas écouter, on baisse un peu le son de la radio. On revient dans 5 minutes pour écouter le reste. Prenez soin de vous. Je débute ma lecture. Il était parti, mais c'est comme s'il était encore là. Je lui avais dit au revoir avec ce sourire en coin, celui qui s'invite sur mon visage lorsque mon esprit quitte mon corps. Moi, je n'étais plus là. Je n'avais rien vécu. Je n'étais pas éveillée. Mais lui, il était encore dans la pièce. Il était encore dans la pièce puisque son odeur s'y était installée à jamais et qu'il avait fait de cet espace le sien. Avant qu'il parte, c'était encore chez moi. Maintenant, je n'existe plus et rien autour de moi n'a existé avant qu'il n'arrive. J'avais dit non ou j'avais dit oui, je ne m'en rappelle plus. C'était un des deux. Il me semble que j'avais dit oui, mais je l'avais prononcé non. Et après, je n'avais plus rien dit, alors de toute façon, ça compte sûrement comme oui. Je n'avais plus rien dit, ni pensé, et j'espérais que mon esprit quitte mon corps à ce moment-là, mais ce ne fut pas le cas, puisque je me souviens du poids de son corps sur le mien et de la manière dont il tapait à l'intérieur. On ne peut pas dire que ça m'ait fait mal, ce serait mentir, mais disons que j'aurais aimé bouger si j'avais pu. Je pense à tous ces récits et je ne me retrouve pas dedans. C'était comme si, d'une seconde à une autre, j'avais tout ressenti, puis rien. Avant, je ressentais tout. Maintenant, je ne ressens plus rien. Même plus l'eau sur moi. Même après 5 douches. Il ne me semble pas que l'eau marche correctement. Peut-être que désormais, rien ne marche correctement. Peut-être qu'avant, rien ne marchait correctement non plus, mais que je ne l'avais jamais remarqué. Ou alors, ce doit être que tout marche correctement, mais que moi je ne marche plus. Ça doit être un des deux. J'ai dormi plus que des raisons, et il faisait encore si chaud, et la télé était encore allumée, et c'était l'émission où le mec se charge de vendre la maison au meilleur prix, et la fille repeint tous les murs en couleur top pour la vendre plus cher. Il riait fort, et le ventilateur allait trop vite. Alors j'ai tout éteint d'un coup, parce que c'était vraiment un drôle de réveil. Tout était trop fort, ça m'avait fait pleurer, et je n'arrivais pas à m'arrêter. Il faisait trop chaud pour pleurer, alors j'étais sur le carrelage parce que sur ce lit, ce n'était pas possible. Pleurer sous cette chaleur m'était difficile et j'aurais aimé pouvoir m'arrêter, mais je ne pouvais pas. C'était un peu marrant aussi, parce que je me voyais pleurer très fort, sans rien ressentir. Je me voyais par terre, pleurer dans le vide. Je dis vide parce qu'à l'intérieur, il n'y avait ni haine, ni peine. Il y avait juste du rien du tout. Je voulais boire du vin après les pleurs. Mais j'ai laissé mon verre sur la table de nuit, parce que j'avais envie d'être alerte. Ça veut toujours mieux d'être alerte, même si je ne risquais rien. Je suis retournée me coucher, puisque je travaillais le lendemain et que j'avais encore très sommeil. Le lendemain, lorsque mon réveil a sonné, j'étais de meilleure humeur, parce qu'il faisait moins chaud et que je respirais un peu mieux. J'ai allumé la télé avant d'aller préparer mon café. C'était l'émission où deux hommes se crient dessus, car l'un ne répond pas à la question de l'autre à la manière dont le premier voudrait que le second y réponde. Normalement, j'aime bien l'absurdité de ce programme, puisque c'est exactement la même chose tous les matins, mais ce matin, c'était encore trop fort. Alors j'ai éteint la télé, et j'ai bu mon café dans le silence. J'aurais aimé fumer, comme tous les matins quand je bois mon café, mais j'avais la nausée, alors je n'avais pas fumé. J'aurais aussi aimé manger, mais pour les mêmes raisons, j'ai préféré ne pas prendre de petit déjeuner. J'ai mis beaucoup moins de temps à me maquiller que d'habitude, puisque je n'avais pas vraiment envie de m'apprêter aujourd'hui. Je me suis dit que mon maquillage n'irait certainement pas avec ma tenue, de toute façon, parce que je l'avais voulu plus simple que celle que je porte normalement. Je suis partie au travail à l'heure, ce qui m'a mise en joie pendant un court instant. En marchant vers le métro, j'ai enlevé mes écouteurs à mi-chemin et je me suis concentrée sur le bruit des pas de tous les gens qu'il y avait autour de moi. J'ai remarqué que la plupart regardaient leur téléphone, ce qui m'a soulagée puisque j'avais pas forcément envie qu'on me regarde. Quand j'attendais mon métro, par contre, j'ai senti des regards sur moi et ça m'a pas énervée, mais ça m'a rendue étrange. J'avais un peu chaud et mes jambes se sont mises à trembloter, comme si j'étais un pauvre petit chien de vieille en hiver. J'avais pas mangé depuis je ne sais plus trop quand, donc j'ai eu très peur de tomber pour de vrai, parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Je suis rentrée dans mon métro, dans lequel il y avait beaucoup de monde parce que j'étais à l'heure, et j'ai prié pour avoir une place assise. Mais il n'y en avait plus, alors je me suis accrochée très fort à la barre pour ne pas tomber. On était tous relativement proches, et je sentais quelqu'un derrière moi. Ça m'a donné envie de m'étaler, comme sur le carrelage, parce que j'avais pas envie qu'on me touche, parce que j'avais dit non, parce que je l'avais dit plusieurs fois, et qu'on m'avait pas entendu, on m'avait pas écouté, et que j'essayais de faire bouger mon corps, mais qu'il ne voulait pas, lui, que j'y arrive. Et qu'il avait réussi à rentrer dedans, et aussi dans mon cerveau, pour lui dire à mon corps, « Si tu bouges, je te tue. » Il ne l'a pas dit, mais je l'ai bien compris. Et contre moi, derrière, il bougeait, et personne ne viendra le tuer. J'ai envie d'être sur le carrelage. J'ai envie d'être dans un chez-moi qui était encore chez moi. Par-dessus tout, j'ai envie de ne plus exister, parce que j'avais compris maintenant que j'en avais pas le droit. Merci beaucoup pour votre écoute.
Elle me regardait, je suis sous le charme, comme si tout à coup je n'étais plus une femme. C'est agréable. Comme sensation, j'ai l'impression d'être au collège devant un garçon. Et dans mon cœur et dans mon corps, tout le monde a l'air d'accord pour me dire que je suis touchée là où jamais je ne me serais aventurée, comme un sens interdit. Si les
Aujourd'hui, je vais vous présenter une chanteuse qui compte beaucoup pour moi. Une chanteuse qui a transcendé l'univers du folk américain dans les années 60. Cette chanteuse, c'est Karen Dalton. Et j'ai eu envie de la présenter aujourd'hui parce que depuis que je l'ai rencontrée, il n'y a pas eu un jour qui passe sans que je ressente le besoin de l'écouter et d'avoir un peu de sa voix qui coule dans mes veines. Elle a accompagné mes joies et mes peines, et je me dis que peut-être cela fera du bien à d'autres de croiser son chemin, si ce n'est pas déjà le cas.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Comment ai-je rencontré Karen ? Était-ce un soir de neige ou un jour d'averse sur les volcans du Cantal ? Je peine à me souvenir. Pourtant, je crois que lorsque j'ai entendu sa voix la première fois, c'était à la fin d'un épisode de la série Transparent, créée par Joey Soloway, avec la chanson Something on Your Mind, l'histoire d'une tortue domestique qui s'échappe de son bocal et crée une sorte de réminiscence générale dans la famille. Pourquoi m'est-elle apparue ? Au-delà de sa voix que je ne peux expliquer comme fantomatique, fantôme, habité par toute la pulsation du monde. Pourquoi est-elle apparue donc comme essentielle ? Peut-être parce qu'il s'agissait là d'une voix absolument autre, délirante, aberrante et fragmentée. On aurait pu croire que Karen Dalton avait porté tout le chagrin du monde en elle, sur ses épaules ou à la pointe de ses longs cheveux de Cherokee. J'ai sur mon bureau une photo d'elle que je garde toujours avec moi. Karen me regarde, elle est assise au fond de son fauteuil et elle fume une cigarette papier blanchi, en buvant ce qui ressemble à une grenadine. Ses paupières sont lourdes et elles m'émeuvent chaque fois de même. J'aime me plonger dans la contemplation de cette photographie quand je peine à trouver de l'inspiration. Elle me repose. Elle se repose ici. Karen a chanté toute sa vie avec la même intensité. Bob Dylan a dit d'elle qu'elle était hallucinante, qu'elle faisait tout trembler. Trembler le monde à l'époque, au village, le Greenwich Village. Elle s'est produite sur les scènes ouvertes des cafés de New York avec sa guitare, 12 cordes et son banjo. Elle chantait avec Fred Neil, avec Tim Hardin aussi, à l'époque des chansons contestataires, des protest songs. Elle était essentiellement interprète. Elle s'emparait des chansons traditionnelles, de celles qui font la richesse de la musique folk américaine. Ces chansons qui ont été apportées par les immigrés, ceux qui ont peuplé le continent américain en arrivant par la mer, par les bateaux, en transitant par Ellis Island, de la mélancolie et de la nostalgie plein les valises. Elle chantait avec un blues à faire frémir l'océan, un blues étrange qui sourd le cœur, parce que dans sa voix on peut entendre aussi se déployer l'âme des Premières Nations, à qui l'on a coupé la langue et à qui l'on a volé les terres pour reposer et pour creuser des tombes. Karen Dalton en chante le blues. À la fin de la chanson Cotton Eye Joe, on peut entendre « You know dying is easy, it's living that is pain ». Et je crois que c'est là que se trouve l'essence du blues.
Where?
Alors, qu'est-ce qui a amené Karen Dalton à s'emparer de la musique avec une telle ferveur, avec une telle puissance, et à ce que sa voix nous parvienne aujourd'hui aussi intacte et résistante? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, lorsque j'écoute des chansons des années 60, cette époque de la contestation entre les luttes pour les droits civiques, entre les luttes pour les droits civiques et les manifestations contre la guerre au Vietnam, je pense que tout est encore tellement actuel, et que les luttes, peu importe l'âge qu'elles ont, qu'elles auront, se rejoignent et s'interpénètrent. Si je souhaite parler de Karen Dalton aujourd'hui, c'est aussi parce que sa trajectoire me semble particulièrement intéressante. Pourquoi si peu de personnes ont entendu parler d'elle? Enfin, je veux dire, autour de moi. Pourquoi tellement de femmes talentueuses ont échappé à cette rétention? Qui sélectionne et quels sont les critères pour être recueillis dans l'écumoire de la mémoire auditive des mondes? Karen Dalton, dans les années 60, avait tout pour percer, pour y arriver, pour devenir une star. Cependant, le star system ne l'a pas intéressée. Elle préférait la scène, et on raconte qu'elle ne supportait pas l'idée de l'enregistrement studio, celui d'une musique arrêtée, fixée sur bande. Comme la possibilité de pouvoir toujours réinventer, donc improviser, ce qui est l'essence même aussi de la musique folk, avec l'audace et l'énergie du public que l'on sent passer à travers soi. Elle a pris du recul sur New York à un moment où des personnalités comme Bob Dylan, John Baez, Dave Van Ronk ou encore Pete Seeger prenaient leur envol sur les scènes musicales et les festivals tels que celui de Newport, véritable tremplin pour les artistes folk. Elle s'est retirée dans les montagnes du Colorado pour continuer à vivre avec ses enfants et son mari et jouer de la musique comme elle le voulait, librement. Aujourd'hui, avec Internet, on peut voir tout ce que l'on veut, avoir tout ce que l'on souhaite dans un grand mouvement de ressac temporel. Je clique et je cherche. Je cherche à retrouver les images du visage de Karen Dalton, des interviews d'elle, quelque part oubliées dans l'œil d'une caméra. Y en a-t-il sur la surface de cette terre? Vais-je réussir à la rejoindre, à la retrouver, à lui tendre la main? Les images reproduites et multipliées voyagent à la vitesse de la lumière. Je regarde Karen se mouvoir dans la cuisine d'été, dans sa cuisine du Colorado. Une voix off masculine, étrange, froide et neutre, nous explique que Karen Dalton vit avec ses amis, ici, de presque rien, car il pense que l'argent entretient un malaise dans la société. Après, on la regarde, on la voit marcher dans les bois. Les images se superposent à des plans d'elle qui chantent une ballade. Il y a son visage et ses yeux fermés qui tremblent. Sa bouche se tord lascivement pour laisser s'épanouir dans le temps, la mélodie, la chanson. C'est celle que je préfère, celle qui m'est restée. Celle que je chanterai à mes enfants pour les endormir, si un jour j'en ai. Une lullaby, en somme. Blues, Jump the Rabbit.
When the blues jump up a rabbit, rabbit hill run. Poor little rabbit crying like a newborn child. Wish I was a headlight on some western train. I shine my light on cool Colorado rain. Wish I was in cool Colorado up on some mountain high. I'd see my darling as he went riding by. He went from somewhat white or yellow, some crepe black or brown. The man I'm craving won't never turn me down. Won't never turn me blues. Jump up a rabbit, rabbit, he'll run a mile.